sur RFI. Laurence Alloire, Dagui Mfa Traoré, Musique du Monde sur RFI.
C'est un enfant du rock qui va ambiancer ses musiques du monde aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Il s'appelle Mishka Sayas. Il est journaliste, auteur, producteur de radio. Il anime Very Good Trips, une émission musicale sur France Inter, qui est la première chaîne française de service public. Il sort un nouveau livre, une histoire intime de la musique, sous forme d'entretien avec Maud Berthommier, qui elle-même avait publié en 2019 Encore plus de bruit, l'âge d'or du journalisme rock en Amérique, par ceux qui l'ont inventé, et un autre bouquin sur le groupe anglais The Clash, que vous entendez là juste en dessous. Alors pourquoi la musique nous inspire tant? Pourquoi la musique l'inspire tant? Lui, Mishka Sayas, il va tenter d'y répondre durant cette émission. Évidemment, nous lui avons demandé de concocter la programmation musicale. Bonsoir jeune homme.
Bonsoir madame.
Sur RFI dans les musiques du monde avec le titre Baby Come Back. Mishka Sayas, vous êtes notre invité, c'est vous qui faites la programmation aujourd'hui. Vous êtes un homme qui aime raconter des histoires, pas les légendes, hein, les vraies histoires. Vous êtes un enquêteur.
Oui.
On vous doit beaucoup, surtout il y a une vingtaine d'années quand vous avez sorti avec d'autres journalistes le dictionnaire du rock, qui était une mine d'or, une bible en tout cas pour moi.
Merci.
Depuis 2015, vous animez une émission musicale sur France Inter qui s'appelle Very Good Trip. Dans ce livre que vous sortez, vous avez sélectionné 300 chansons qui partent de 1963 jusqu'à 2022. En gros, on commence avec les Beatles et ça finit avec Billie Eilish. Ce sont des chansons qui ont changé votre vie. Alors, en quoi le Baby Come Back du groupe anglais The Eccles, qui était un groupe multiracial, oui, avec Eddie Grant, a eu un impact sur le cours de votre vie?
Chaque chanson, en fait, enfin, c'est un peu comme ça que le livre est construit, correspond à une expérience dans ma vie, un souvenir marquant. Vous savez, souvent, on demande aux gens quelles sont les chansons qui vous ont marqué, et très souvent, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que c'est lié au premier amour, aux vacances, à une grève générale qui faisait que vous n'alliez pas à l'école, à la première fois que vous étiez dans une boîte de nuit. Et moi, je me souviens que pour moi, c'était le Jerk. C'était en 68, j'avais 9 ans. Et ce qui me frappait, c'était cette... j'ai dû entendre ça sur un stand d'autotamponneuse, je crois, dans une fête foraine. Et à l'époque, vous savez, c'était une manière d'écouter très fort la musique qui était accessible aux enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans des discothèques, évidemment. Et puis, quand on écoutait de chez soi, en général, les parents, dès que le volume du transistor dépassait de certains volumes, justement, on vous rappelait à l'ordre. Et c'est pour moi une expérience de plein air, de joie, de vacances. Je crois que c'était un été. J'étais encore un enfant sur la vie duquel ne plaidait absolument aucun nuage, aucune menace, aucune grisaille. Et c'est pour moi, c'est le soleil, c'est... La simple joie de vivre, enfin, tout ce que tout ce pourquoi je pense la musique m'a attiré. Bien, même s'il y avait d'autres choses dès le début, mais enfin, il y a une sorte Oui, d'exaltation qui est liée pour moi à ce titre, et une envie de bouger en tout cas.
Une envie de bouger, donc un véritable enfant du rock que vous qualifiez vous-même de l'après-après-guerre, c'est-à-dire oui. que vous étiez trop jeune en 68
oui.
et déjà trop vieux pour ce qu'on a appelé ensuite les générations sacrifiées, que, oui. l'on met à peu près à quelle période dans l'échelle du temps ?
Oui, alors vous savez, les sociologues divergent, moi je n'ai pas leur science, mais je dirais, vous savez, à partir du moment où on a parlé de crise, c'est-à-dire que la crise, je crois, s'est installée dans les années 80, moi je
ne
sais pas...
74, années 80,
oui,
SIDA, Tchernobyl,
fin des années 70, je me souviens que c'était quand même déjà un thème électoral pour la gauche, en fait, de parler de la crise, du chômage, etc., du fait que les lendemains n'allaient pas chanter, alors bien sûr, il y a eu l'élection de Mitterrand en 81, pour certains, ça représente un grand espoir, mais enfin, je pense qu'il y avait quand même un climat de désillusion déjà assez fort qui imprégnait la société.
Alors, je vais parler de vos parents rapidement, parce que vous les évoquez dans votre livre.
Oui.
Vous êtes le fils de Raymond Assayas, qui se faisait appeler Jacques Rémy, qui était un grand scénariste. Hein, il était sur Le Secret de Meyerling, de Jean Delannoy, René Clair,
Marcel
Camus. Peut-être que vous allez être encore plus surpris après, ou
oui,
pas.
Oui.
Et vous êtes aussi le fils de sa femme, Catherine de Caroli, cette mère qui vous a beaucoup influencé, notamment en brûlant la pochette de Two Virgins, le 33 tours de John Lennon, nu avec Madame. Pour changer. En quoi votre mère a fait votre éducation musicale ? Elle a l'air très, très, très importante dans le cours de votre vie.
Ben, je crois que je suis obligé un peu de me mettre un peu à nu. Ma mère, je n'ai pas grandi au quotidien avec ma mère. Donc, ma mère n'était pas tout le temps à la maison. Donc, les fois où elle était présente, c'est-à-dire elle venait tous les week-ends et nous partions en vacances avec elle. Donc, à chaque fois, il y avait des événements qui me marquaient. C'est-à-dire, c'était pas le quotidien, c'était pas la banalité, c'était pas le train-train. Il se passait toujours quelque chose qu'il y avait ma mère. Ça pouvait être positif. C'est-à-dire, on écoutait tout à coup, elle me racontait une histoire, ou on écoutait une chanson à la radio, ou elle faisait un commentaire sur la musique classique. Ou alors, c'était des crises. Bon, mais ça, c'est autre chose. Et donc,
une rase.
Oui, ah ben, c'était une femme de tempérament, oui, ça certainement. Et alors, eh bien, elle était extrêmement sensible à la musique, et je pense que j'ai hérité ça d'elle, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut parler beaucoup, je peux être très avenant, je peux comme ça être très bavard même. Mais pour parler de ce qui arrive au fond de moi, j'ai du mal, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et la musique m'aide. Et je pense que la musique aidait ma mère à évoquer les émotions face auquel on est aphasique, on est sans voix. Et je me rappelle, par exemple, je le raconte dans le livre, que ma mère était très sensible à des chansons qui évoquaient des tragédies de la vie, par exemple, pour des chagrins d'amour terribles, ou même, il y a une chanson de Cole Porter, je crois qu'il était chanté par... Fats Waller, si je me trompe pas, peut-être je me trompe, je sais plus. Et c'est une chanson qui évoque le suicide programmé d'une dame et qui fait savoir qu'elle va se suicider, sans doute à la suite d'un chagrin d'amour terrible, en envoyant une carte disant « Miss Otis regrets, Mademoiselle Otis regrette, mais elle ne pourra pas se rendre à votre invitation. » Et on comprend que c'est parce qu'elle va mettre fin à ses jours. Et je sais que ma mère écoutait cette chanson et elle me faisait un commentaire après, elle me disait « Tu vois, ce qui est magnifique, c'est que tout est suggéré, rien n'est exprimé, mais on comprend la tragédie. » Et puis sa voix commençait à trembler, elle avait les larmes qui perlaient. Enfin, je crois que c'est ce mélange de pudeur et de désarroi m'a profondément marqué.
Donc votre mère vous a beaucoup marqué.
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était extrêmement sensible. D'ailleurs, elle était pianiste. Enfin, elle était pianiste, c'est ce qu'elle nous disait. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie jouer au piano. Mais enfin, elle nous disait qu'elle avait appris le piano, qu'elle avait pris des leçons. Et d'ailleurs, elle chantait, elle avait un registre de mezzo-soprane. Et elle faisait elle chantait la chevauchée des Valkyries parfois. Et pour rigoler, en plus, elle détestait l'opéra. C'est ça qui est très marrant. Elle trouvait ça ridicule. Les voix lyriques, elle ne supportait pas. Elle trouvait que c'était vraiment grotesque. Enfin, cette façon de ululer comme ça. Enfin, elle aimait beaucoup les voix naturelles. Elle adorait par exemple Fred Astaire, qui swingait, qui chantonnait, qui dansait. Elle aimait la légèreté. Et ça, j'ai gardé, je crois, ça d'elle. C'est-à-dire que je n'aime pas les choses trop appuyées, trop ouvertement émotionnelles. Même si je suis un homme de paradoxe et que j'adore la soul. Mais je ne sais pas comment dire, j'aime l'élégance dans la mise à nu. Voilà.
Votre maman vous a marqué, elle m'a marqué moi aussi.
Ah bon ?
Parce qu'on s'est rencontrés quand j'avais 10 ou 12 ans. Votre maman était styliste chez Hermès.
Ben, oui, mais comment ?
Ma mère était la numéro 2 du prêt-à-porter chez Hermès.
Je ne savais pas. Mais comment s'appelait votre maman ?
Je ne peux pas le dire à l'antenne.
Ah bon, vous me le direz parce que...
Et donc j'ai rencontré votre
mais
mère
parce que
il y a 50 ans.
Je l'ai certainement connue.
Et c'était Madame de Caroli, bien sûr.
Bien sûr, oui, parce qu'elle avait
donc gardé... Elle a créé la boucle H de chez Hermès.
Oui,
c'est elle qui a créé le prêt-à-porter chez Hermès. Et puis le jour où je l'ai rencontrée, elle travaillait sur un carré.
Mais oui, et vous vous rappelez Henri Dorigny qui dessinait à côté ?
Absolument.
C'était rue Boissy d'Anglas.
C'était l'entrée du personnel.
L'entrée du personnel.
On va continuer au café.
Oui, oui. Ah, mais c'est dingue.
Havana Moon, Chuck Berry.
me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark. The boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in. It's low the moon, but high the wind. Havana Moon.
Havana Moon. Signé Chuck Berry, ça fait partie de la programmation de Mishka Assayas qui vient présenter aujourd'hui son livre, Une histoire intime de la musique, sous le titre de son émission Very Good Trip, donc VGT. Quel a été votre premier choc esthétique dans le rock ?
Certainement, alors si on parle de choc esthétique, je pense, et très banalement, mais est-ce que c'est tellement banal un choc, c'était les Beatles et Rubber Soul, parce que c'est l'album que mon frère a rapporté, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et c'est le premier grand disque que j'ai dû voir de ma vie, je pense. Parce qu'avant, il y avait que les 45 tours. Il y avait ce format intermédiaire qu'on a oublié, qui était le 17 cm. Et je crois que j'ai été captivé autant par la musique et les chansons que par la pochette. Parce qu'on voyait ces quatre têtes géantes déformées. Je les compare dans le livre au statut de l'île de Pâques. Et c'est vrai que ça... Il y avait quelque chose qui était surhumain. C'était des super-héros à mes yeux. Alors évidemment, quand on est un enfant, tous les adultes peuvent être considérés comme appartenant à une humanité supérieure, parce qu'ils vous toisent. Certains, parce qu'ils vous font peur. Voilà, d'autres, vous les trouvez ridicules. Mais les Beatles me semblaient surnaturels. C'est-à-dire que je pensais qu'ils n'existaient pas vraiment sur cette terre, mais sur une autre planète, d'une certaine façon.
Oui, avec la couleur vert, épinard, rouge.
Voilà, et alors vous savez, l'histoire, c'est que c'était une... L'image, est le fruit d'un accident. C'est-à-dire qu'en fait, on projetait aux 4 Beatles les images qui auraient dû être celles de la pochette, et à un moment, il y a une diapositive qui s'est renversée à moitié, enfin, vous voyez, et qui a été projetée de manière anamorphosée. Ils ont regardé ça. Ah, mais c'est ça! Ah, mais c'est génial! C'est ça qu'il faut. Et donc, là, c'est pour ça que cette image est restée.
La langue anglaise, c'est pour vous toujours une langue porteuse de secrets prodigieux, ou ça c'est quand vous étiez petit?
Ah ben ça s'est un peu atténué sans doute, mais...
Parce que vous le comprenez là, maintenant l'anglais.
Oui, heureusement. Ça c'était encore un lien avec ma mère, parce que ma mère avait eu... votre maman l'a croisée, vous l'avez croisée vous-même. Eh bien, elle avait grandi à Budapest, et elle avait appris l'anglais avec une gouvernante. Et donc elle avait cet accent extrêmement pointu qu'on entend dans certaines comédies en noir et blanc, et qui est un peu, enfin à nos oreilles aujourd'hui, un peu ridicule. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se moquent de moi parce que j'essaie de prononcer le mieux possible l'anglais, etc. dans mes émissions. Mais ça vient de ma mère, parce qu'elle nous reprenait dès qu'on prononçait mal. Ah, mais pour elle, c'était une faute de goût. C'est-à-dire que ne pas prononcer une diphtongue, ne pas mettre l'accent tonique. Je me souviens qu'une fois, elle me disait « Ah, j'ai découvert qu'en fait, l'adjectif « exquisite », c'est la première syllabe qui est accentuée, et non la seconde. « Exquisite », alors elle était ravie, elle disait « exquisite ». Et pour moi, c'était comme une musique, déjà. Et quand j'entendais l'anglais chanter, c'était un prolongement de cette poésie que ma mère m'avait transmise. Et par exemple, je me souviens qu'elle détestait l'accent américain, par exemple. Elle trouvait ça horrible. « Ah, c'est horrible, elle l'imitait avec ce côté d'Asillard, yeah, tout ça, ah, quelle horreur, et tout ça. Elle entendait Bob Dylan, elle trouvait ça horrible, enfin elle était d'un autre monde, hein, d'un ancien monde.
Vous avez travaillé en presse écrite pour Rock et Folk, pour Libération, pour VSD, cet appareil qui n'existe plus, non. Actuel non plus, Jean-François Bizot. C'est marrant parce qu'en bossant pour Actuel, vous auriez pu, comme c'était Actuel, Radio Nova, la Sono Mondiale à l'époque, avoir une oreille sur le continent africain dans votre playlist, dans les 300 titres.
Il était, j'ai évidemment...
C'est pas reproche. Hein.
Non, mais écoutez, alors...
Enfin, maintenant qu'on en parle.
Non, je comprends très bien que c'est pas dit sur le mode du reproche. En fait, je me suis beaucoup rattrapé par la suite. Mais là, j'ai voulu être honnête et parler des musiques qui m'ont vraiment touché au moment où je les découvrais. Certaines, je dirais, me parlent beaucoup moins aujourd'hui qu'elles me parlaient il y a 30 ou 40 ans, et des choses que je n'avais pas découvertes il y a 40 ans, aujourd'hui, me parlent bien plus, évidemment. J'en rappelle, vous savez, à un moment, je parle du groupe Trafic. Bon. Eh bien, le groupe Trafic est un groupe, alors je résume un peu l'affaire, c'est un groupe qui s'est formé vers l'année 66-67 à Londres. Il y avait Steve Winwood, qui était un musicien prodige, extrêmement jeune, et qui s'était entouré vraiment d'excellents musiciens, un remarquable saxophoniste de jazz, Chris Wood. Bon, et le but de Trafic était de faire une fusion entre psychédélisme, folk, jazz et musique africaine. Parce que très rapidement, Trafic a intégré un percussionniste ghanéen qui s'appelait Rebob Kwakuba. Et c'est un des grands souvenirs de concert que j'ai. J'avais 14 ans, 15 ans. Et je suis allé voir à l'Olympia le groupe Trafic. Et c'était une sorte de Santana européen. Et c'était absolument fabuleux parce qu'il y avait la pulsation afro-cubaine. Enfin, quant à l'Afrique noire, ben, il y avait le groupe Air Force de Ginger Baker. Il y avait Rémi Kabaka, etc.
Ginger
Baker qui était personnage tellement marqué par tout ce courant. Pour les Talking Heads, évidemment, qui ont intégré Ino, enfin tout ça.
En fait, vous l'avez fait la semaine dernière, Brian Eno.
Oui, j'ai interviewé Ino.
Et comment il va? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment?
Alors, il sort un nouvel album chanté.
C'est lui qui chante.
D'accord. Voilà, son premier album chanté depuis une dizaine d'années. Ben, vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opinions sur le monde, comme il va. Il n'aime pas les réseaux sociaux. Il raconte beaucoup de choses qui sortent de la musique. Alors, s'il faut un peu le ramener à la musique, il dit qu'il n'a plus tellement de temps pour réaliser les albums d'autres artistes, et ça je regrette beaucoup, mais il dit qu'il a travaillé avec Tony Allen. Et ça, je ne le savais pas, ça n'a pas été médiatisé. Enfin, Tony Allen, l'immense...
directeur musical de Fela.
Et ben, puis, voilà, et qui vivait à Paris, et qui a vraiment travaillé.
Il y a un hommage qui aura lieu à la Philharmonie le 16 octobre, je crois.
À Fela.
Alors, il y a l'expo Fela qui démarre le 20, et du 8 au 16, il y a tous les enfants Kuti qui vont défiler à la Philharmonie, et un hommage à Tony Allen le dernier jour.
Voilà, donc il me dit qu'il a enregistré des titres avec Tony Allen, qui sont inédits, et qui va sans doute les publier.
Ça, c'est une bonne chose.
Ouais.
J'ai une proposition.
Allez.
Go to the Bayou. J'ai tout tenté, mais ça n'a pas marché. Fat and the Chessmen, alors en quoi ce titre a
alors
modifié
là,
votre
alors là,
vie
c'est encore une fois,
Monsieur
maman,
Assayas.
Encore une fois, maman, c'est ma mère avait acheté un disque qu'elle écoutait donc le week-end quand elle venait nous voir. Faut dire, peut-être qu'il faut que j'explique, c'était une configuration assez spéciale dans ma famille, puisque en fait, ma mère et mon père étaient divorcés sans que j'en étais avisé. On m'expliquait que ma mère n'était pas là parce qu'elle travaillait à Paris. Elle avait une très grande chambre dans notre maison qui était son domaine, qui était la plus grande chambre, effectivement, et qui était vide le reste du temps. Et elle venait, elle redevenait la reine. Et donc, c'était dans sa chambre qu'il y avait le tourne-disque. C'était un disque de format 17 cm. D'ailleurs, je reproduis l'image de la pochette dans le livre. On voit une dame en espèce de tailleur Chanel au-dessous du genou qui twist, voilà, qui se déhanche, qui twist. Et ça s'appelle Dansons le twist. Et il y avait dedans cette chanson Oufoupedou, mais que j'écoutais, mais avec une sorte de fascination. C'est-à-dire que je m'asseyais devant le petit couvercle du gramophone, comme disait maman, du tourne-disque, quoi. Il y avait ça, ce son qui crachotait comme ça, il y a cette chanson Oufoupedou, qui a ce rythme très Nouvelle-Orléans, effectivement, comme vous disiez, c'est le bayou. C'est le rock'n'roll un peu alangui, avec cette chaleur tropicale de la Louisiane, et cette espèce de... Voilà, on prend la vie du bon côté, quoi. Il peut rien arriver.
Il y a une photo de vous dans le livre, ce doit être au tout début des années 80, vous à Londres, c'est votre premier reportage.
Oui, où j'ai l'air d'Harry Potter, la tête d'Harry Potter, là, oui.
Ça vous va bien.
Oui, c'est un reportage que j'ai fait grâce à quelqu'un que vous avez peut-être connu, qui était Jean-Pierre Lantin, qui travaillait à Actuel, que j'adorais, enfin, que j'ai rencontré grâce à... le hasard, un ami de mon frère était maquettiste, donc j'ai pu présenter mes textes à Jean-Pierre, qui dirigeait la partie rock et musique actuelle du Monde de la Musique, qui est un magazine qui n'existe plus depuis 150 ans, et qui était fait conjointement par Le Monde et Télérama. Et donc, Jean-Pierre vraiment a été le premier à m'avoir fait confiance, j'ai écrit des notules, et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai dû évoquer mon rêve d'aller faire un reportage à Londres, les nouveaux groupes, post-punk, il se passait plein de trucs, moi je jurais que par l'hebdomadaire New Musical Express que NMI. J'achetais religieux, et voilà, le NMI, tout ça. Et il m'a dit, ah ouais, ben, ça serait intéressant, on va t'envoyer là-bas avec un photographe. Alors, mais j'avais l'impression de l'imposture totale, j'avais jamais fait de journalisme de ma vie. Et donc, j'étais obsédé néanmoins par cette musique depuis ma plus tendre enfance. Et déjà, j'écrivais tout ce que je pouvais pour retenir les noms, je faisais des fiches, je me renseignais sur la composition des groupes, je recopiais tout, etc. Donc, j'étais, pour moi, c'était un monde imaginaire. Et pour la première fois de ma vie, ce monde imaginaire allait devenir réalité. Et donc, je suis allé là-bas et j'avais pris plein de notes sur des groupes comme U2, que personne ne connaissait, qui avait sorti même pas un 45 tours. Mais il y avait eu un article dans l'ennemi qui m'avait donné envie. Et donc, je suis allé voir U2... que personne ne connaissait. Je suis allé voir avec 60 personnes dans un pub où il y avait, je sais pas, un spectateur sur deux était complètement bourré. Enfin, et j'ai eu un coup de foudre pour eux, Bono et The Edge. Enfin, et on est devenus copains.
Ils étaient passés au pavillon Baltar en 80-82 en première partie,
oui,
des Talking Heads.
Ils avaient volé la vedette aux Talking Heads, pratiquement.
Ah, j'avais entendu autour de moi, quel mauvais groupe, ils font jamais carrière.
Ah, oui, ah ben ça, c'était la clairvoyance du public parisien habituel.
Oui, mais j'en faisais partie.
Oui, mais ben, non, mais ce que je comprends, c'est que non, mais c'est normal, parce qu'ils n'étaient pas du tout swingants.
Non.
Ils n'avaient pas le côté funky et branché qu'avaient les Talking Heads. C'était un groupe un peu dont les racines étaient folkloriques, au fond. Donc, il y avait quelque chose, effectivement, qui paraissait un peu rétro. Faut dire ce qui est, quoi.
Rétro, on va le rester avec Buddy Holly.
Ah oui.
Well, all right, so I'm being foolish. Well, all right. Let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, all right, well, all right, we'll live and love with all our might. Well, all right, well, all right, our lifetime love will be all right.
Buddy Holly, une légende, mort à 22 ans dans un accident d'avion, pas tout seul, avec Ritchie Valens qui avait chanté la bamba, et
oui.
Big Bopper, le
oui,
mec
oui.
de Chantilly Lace,
exactement.
28 ans.
Ouais.
Buddy Holly, le rock, c'est...
Buddy Holly, pour moi, c'est le plus grand rocker de la génération des pionniers.
Beau sourire, belles lunettes.
Oui,
Harry
et
Potter.
C'est déjà c'est le modèle de Paul McCartney qui a tout fait pour entretenir sa gloire. Et alors, au fond, il représente tout ce que j'aime dans le rock, c'est-à-dire que, et pas le folklore un peu frelaté, c'est-à-dire que c'est très simple, c'est réduit à l'os, c'est mélodieux, et en même temps, il y a quelque chose de tranchant, de sec, de nerveux. Et tout est dit en 2 minutes 30 ou 3 minutes au moins. C'est-à-dire c'est une mélodie qui vous entre dans la tête et c'est universel. Et il y a une sorte d'élégance quoi, dans son style. Et c'est en apparence un jeune homme sage, alors qu'au fond de lui boue une passion extraordinaire qu'on sent, mais qui n'est pas forcément, comment dire, théâtralisée. Voilà. Et c'est pas un personnage sulfureux, c'est pas quelqu'un qu'on adopte parce que il va très loin dans un romantisme de l'autodestruction, etc. Enfin, il n'est pas boiteux comme Gene Vincent. Bien sûr, il s'est tué dans un accident d'avion, mais c'est un aspect tragique qu'on peut, entre guillemets, romantiser. Mais oui, c'est ça. Mais c'était pas ça. Il avait l'air d'un campagnard et il avait ses grosses lunettes. Enfin, il cachait un peu son jeu. Et il y a une électricité qui se dégageait de lui extraordinaire. Quand vous entendez ses chansons, elles ont une puissance. Parce que, au fond, beaucoup de rock'n'roll se ressemblent, mais aucune chanson de Buddy Holly ne ressemble à une autre. Enfin, c'est déjà les Beatles à lui tout seul. Pour moi, bon, il vient du Texas, enfin, c'est vraiment le carrefour de tant de choses. Et pour moi, je l'ai découvert assez tard, j'avais peut-être une vingtaine d'années, et je me suis dit, mais comment je ne l'ai pas découvert plus tôt?
Est-ce que ça a été un appel pour vous vers les États-Unis? Est-ce que vous avez voulu faire la route 66 d'Est
Alors,
en Ouest?
Pas du tout, j'étais très anglophile, j'avais une sorte d'intolérance fanatique qui me faisait éviter les États-Unis et j'idéalisais tout ce qui se passait à Londres. Voilà, mais bon, c'est un peu une déformation qui venait de mon enfance parce que j'ai tout de suite adoré les Beatles et puis surtout le punk londonien qui me paraissait beaucoup plus inventif que le punk new-yorkais. Enfin, le punk new-yorkais, c'est de là que tout est parti, tout le monde le sait. Mais néanmoins, très vite, il y a eu une explosion de styles différents à Londres. Et puis c'était proche de nous, on pouvait y aller, c'était accessible. À l'époque, quand même, faut pas oublier que pour les États-Unis, il fallait quand même beaucoup d'argent, enfin c'était cher.
Tandis que Londres, on allait à Stalingrad, on prenait son bus et le bateau, c'était bon.
Exactement, voilà, c'était un rêve accessible.
Ouais.
Et je sais pas pourquoi j'avais cette idée stupide de que les États-Unis étaient un pays de ploucs qui comprenaient rien, je sais pas quoi, enfin, des stupidités qu'on se met dans la tête quand on est très jeune et qu'on veut absolument que le monde soit noir et blanc, quoi.
On reste aux États-Unis avec Richie Evans.
Oui.
Richie Evans sur RFI. Je m'aperçois que tous les gens que l'on écoute dans cette émission sont 6 pieds sous terre.
Ouais,
j'espère que
vrai.
J'ai plombé l'ambiance. Richie Evans, bah, lui, il est parti en 2013. Richie Evans, ça représente la sincérité, la liberté, Woodstock.
Oui, bah, c'est le premier musicien qui apparaît dans le film Woodstock. C'est l'histoire et en fait il
racontait
ah bah enfin bon je raconte
dans
ça,
votre voix c'est très beau
de mémoire et en fait il devait donc chanter à une certaine heure et on lui a demandé de chanter plus tôt parce que le groupe qui devait arriver n'est pas arrivé donc il est resté je crois 3h30 ou 4h sur scène et comme son répertoire était limité il a étiré cette chanson Freedom en longueur et on le voit mais complètement éreinté comme à court de marathon il porte un boubou, comme ça, il est complètement, il est trempé, mais comme si on venait de le plonger dans une cuve d'eau chaude, quoi, le pauvre. Et sa prestation est d'une intensité fabuleuse. Alors, Richie Evans, c'était vraiment un personnage incroyable parce que c'était un chanteur de guitariste de rue. Il avait un accordage assez particulier de sa guitare. Donc, on l'entend de manière très rythmique. Et il dessinait sur les trottoirs à New York. Et il avait un répertoire qui était souvent folk. Enfin, il a repris des chansons de traditionnelles. Que reprenait Bob Dylan ou des chansons des Beatles aussi, il reprenait un peu, vous savez, comme les chanteurs des rues qui reprennent un peu tout ce qui passe, quoi. Et c'était un. Moi, je sais pas, quand j'ai vu le film Woodstock quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans, et quand j'ai vu Richie Evans, ce type avec ses yeux injectés de sang complètement en transe, quoi, trempé de sueur, qui parcourait la scène comme ça de long en large, sans pouvoir s'arrêter, je me suis dit, mais c'est comme s'il avait un super pouvoir. Et je me suis dit, la musique donne un super pouvoir. Je ne me l'exprime mais sûrement pas à moi-même de cette manière, mais je le ressentais. Et je suis persuadé que de manière subliminale et subconsciente, j'ai été très, très, très profondément marqué par ce passage de Richie Evans au Festival de Woodstock, tel qu'il a été montré dans le film.
Est-ce que vous aimez vous réécouter en radio ?
Jamais.
Ah, c'est bien, parce que je vais vous faire écouter quelque chose. Ah. Alors, c'est pas un extrait de Very Good Trip. Hein. C'est une conférence que vous avez donnée sur le thème de l'affrontement au consensus. Vous allez vous détester, forcément.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je sais pas.
Déjà, merci beaucoup d'être venu parce que à la radio, j'ai l'habitude de voir personne à part 3 techniciens derrière la vide. Donc voilà, ça me change un peu. Alors, m'en veuillez pas parce que je lis un peu. Ça me permet en fait d'aller plus droit au but et de pas trop faire de alors, du coup et tout ça. Voilà. Alors, vous le savez peut-être pas, mais parce que ce n'est pas un événement que les médias ont l'habitude de commémorer, mais le premier rassemblement de masse de la jeunesse lié à la musique et au rock, rock'n'roll en particulier, n'a pas eu lieu aux États-Unis, n'a pas eu lieu en Grande-Bretagne, s'est produit chez nous, en France, à Paris, précisément en juin 1963, pour fêter le premier anniversaire du magazine Salut les copains. Il a réuni plus de 150 000 jeunes venus de partout. On a appelé ça la nuit de la Bastille. Il y avait Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, les chaussettes noires avec Eddie Mitchell, les chats sauvages avec Dick Rivers, tous ceux qu'on appelait les idoles et qui, en grande partie, avaient adapté en français le rock'n'roll américain. Ils étaient tous là parce que pour voir les vedettes du rock'n'roll américain en chair et en os, et si on vivait en France, c'était mission impossible. Donc tout ce, ça a été quasiment improvisé, hein. Vous imaginez, le début des années 60, une naïveté totale, une sono crachotante, des gens qui sont venus là et qui n'entendent rien, pas de barrière, pas de sécurité, on monte sur les arbres, les auvents, on escalade les immeubles, en plein Paris. Impensable aujourd'hui, évidemment. Et puis il y a des destructions, du vandalisme, aussi des violences et des bagarres. C'est déjà le phénomène des bandes, hein, les blousons noirs, comme on les appelle en ce temps-là, venus des quartiers du nord et de l'est de Paris, hein, l'équivalent de l'époque des banlieues d'aujourd'hui. Et ça fait peur à ceux qui dirigent la grande presse et qui font des titres effrayants, 1000 voyous saccagent tout en plein Paris, que fait la police, etc., etc. Voilà, tout est déjà réuni, une jeunesse rassemblée en masse autour de la musique, du rock'n'roll précisément, pour la première fois, et la peur de la violence entraînée et attisée, selon certains, par cette musique. Et même le général de Gaulle s'en mêle et déclare « ces jeunes ont de l'énergie à revendre, ils devraient l'employer à construire des routes ».
Merci ouais. Mon général. Aujourd'hui, ouais. Ils font des autoroutes de l'information. Alors,
oui, j'aime pas du tout écouter ma voix. Ça, c'est vraiment. C'est comme les acteurs qui détestent voir à l'écran.
Il y en a beaucoup.
Oui, oui, mais ça, je coche.
Mais j'ai les noms de ceux qui aiment bien.
Ah oui, bah écoutez. Non, c'est horrible. Mais c'est curieux parce que j'entends souvent dire que j'ai une voix radiophonique et moi, je trouve pas du tout parce que je parle comme je parle dans la vie. Alors.
Vous n'aimez pas votre voix naturelle ?
Mais qui aime sa voix ? Je ne sais pas. Peut-être y en a, mais j'en fais pas partie.
Non, je suis comme vous.
Bah alors, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire.
Alors, j'avais mis ce petit extrait parce que vous parliez de la France, de ce premier rassemblement, ce premier Woodstock français en 63. C'est quand même quelques Français dans cette playlist,
oui.
Et notamment Gilbert Bécaud.
Ah oui.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu
as volé,
a volé.
C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Y'avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 non.
Mais c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains franchies.
C'est faux, dit.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu.
Il était une fois, RFI, on dirait un film de Sergio Leone. Là.
Mais c'est extra.
Ennio Morricone.
Oui, mais c'est
la fin.
Mais c'est la fin. Mais c'est vraiment une chanson, mais extraordinaire. Et je me rappelle que quand j'étais enfant, elle me faisait peur parce que. Et en plus, vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup aujourd'hui de chansons qui, très au premier degré, dans le rap, contre les discriminations, contre l'ostracisme, etc., les étrangers. Mais je trouve que tout est dit. D'une manière, mais qui est profondément intelligente, humaine et incarnée. C'est-à-dire, c'est pas des slogans, c'est pas assez mal de pas aimer les étrangers, assez pas bien, etc. C'est, ça vous fait vivre de l'intérieur ce que vivent les gens qui subissent des discriminations tout le temps. Et je trouve que ça a une puissance, une université, une force. Mais à chaque fois, on est remué quand on écoute ça.
Alors, Bécaud avait un surnom, c'était Monsieur 100 000 volts.
Ouais.
Quand il faisait l'Olympia, bah, après, il fallait retaper les sièges.
Ah, ben les gens détruisaient les sièges. C'est avant les Stones, hein.
Ah oui, oui, tout à fait.
Oui, oui.
Alors, vous allez comprendre mon cheminement. Est-ce qu'en 76, vous étiez au Chalet du Lac pour voir les Sex Pistols ?
Non, je n'étais pas au Chalet du Lac.
Mais... Je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, tout le monde a été au Chalet du Lac.
Oui, bah, on remplirait deux zéniths, il fallait croire les gens qui
Alors,
y étaient.
Je n'y étais pas non plus. En revanche, en 81, j'ai assisté à Public Image Limited, donc toujours avec John Lydon à l'Olympia, et là, de nouveau, les sièges ont été défoncés.
C'est vrai ?
Donc, je pensais que c'était un concert de Gilbert Bécaud. Mais en anglais.
Ben voilà, c'est ça la différence.
Alors, il y a quelques Français donc, dans votre playlist, notamment Brigitte Fontaine, que vous comparez aux Slits, ce groupe anglais qui était emmené par Harry Up, qui était d'ailleurs la belle-fille de John Lydon.
Absolument,
mémoire.
Absolument.
Je ne sais pas si vous entendez très bien, mais enfin.
Oui, ça, je sans doute pas, mais bon, je ne sais pas d'ailleurs.
Brigitte
mais...
Fontaine, ce qui vous intéressait chez elle, c'était son écriture, son côté punk avant l'heure.
Exactement.
Et très lettré aussi.
Exactement, ce mélange, encore une fois, toujours une forme d'élégance, et c'est-à-dire de tenue, et en effet, cette écriture, d'ailleurs j'entendais une interview d'Areski récemment,
Kassem,
son compagnon depuis toujours, et qui collaborateur aussi, et qui dit, Brigitte, c'est incroyable, elle est d'une précision quand elle écrit, enfin je veux dire, c'est Baudelaire, quoi, enfin, il n'y a pas un mot de trop, elle utilise chaque mot à bon escient, enfin il y a quelque chose d'une économie de moyens, enfin c'est du grand art.
Sur Éternel, vous la comparez au Britannicus de Racine, ainsi qu'à l'autre âme.
Bah, elle cite de toute façon un passage de Britannicus, mais en effet, l'inspiration des paroles de Poisson, c'est l'autre Amon. Et en effet, je pense que j'ai toujours été évidemment guidé par la littérature. C'est quelque chose qui a toujours été au fond de moi. Et sans doute, j'ai été extrêmement frappé par la puissance de cette fusion entre la musique dans ce qu'elle a de plus libérateur, provocateur, insolent, nouveau, avant-gardiste au fond, et une tradition littéraire très ancrée. C'est ce qu'on retrouve aussi chez Léo Ferré, d'une autre façon. Et chez les Slits, en effet, alors c'est pas en effet la poésie, la littérature, mais je crois qu'il y a aussi la stylisation d'une certaine arrogance féminine, voilà, que Brigitte Fontaine incarnait, voilà.
Petite agressivité sexuelle.
Voilà, agressivité sexuelle aussi, exactement, qui s'exprime toujours d'une manière qui paraît détournée aux yeux de l'homme.
C'est pas du Baudelaire, c'est du Nino Ferrer.
Oh, hé, hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Ouais, mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Mon sirop, ma camomille, ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon.
Nino Ferrer, l'homme malheureux. Il a fait des titres comme Oh et un bon, Mirza, il y a le téléphone qui sonne, qui ont été des grands succès. En fait, il aurait voulu être un grand compositeur, un grand auteur. Je crois qu'il aurait préféré être Bob Dylan.
Sûrement, quand il a fait le Sud, déjà, il y avait une autre ambition qui s'affirmait. Mais en effet, à part cette chanson, rien n'a marché. Donc, c'était tragique parce qu'il faisait le pitre. Mais on sentait, en effet, une insatisfaction. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on se disait hors antenne. C'est qu'il y a, j'étais enfant, mais je percevais cette fragilité, cette fêlure chez lui qui me touchait beaucoup. Et ce que je dis, il y a cette passage, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Les enfants ont une terreur, c'est qu'on se moque d'eux. C'est terrible. Et moi, j'étais très, très susceptible, très angoissé. J'avais un amour propre terrible. J'avais toujours l'impression qu'on se moquait de moi. Oui.
Oh non.
Si.
Je vais faire un petit câlin. Comment vous faites pour vous tenir au courant? Est-ce que vous avez des sites internet particuliers, des journaux que vous lisez?
Oui, je lis beaucoup la presse britannique. Ça se trouve, on trop wampisme anglophile, Uncut, Mojo, qui sont des mensuels. Puis il y a des sites comme Consequence of Sound. Enfin, j'en oublie plein. En fait, je fais souvent des recherches Google toutes bêtes et puis je tombe sur des trucs très intéressants. Et il y a beaucoup d'articles très en profondeur dans le Guardian que je lis beaucoup, qui sont passionnants parce que vraiment ils font un travail journalistique très approfondi sur la musique. En France, je dirais la tradition est plus impressionniste, c'est-à-dire que vous racontez surtout l'impression que la musique vous fait, et donc vous ne cherchez pas forcément à approfondir la réalité de ce qu'il y a derrière. Ce que j'aime beaucoup dans cette école journaliste britannique, et d'ailleurs c'est aussi le cas aux États-Unis, c'est qu'on va toujours chercher le contexte familial, la vie quotidienne, les mésaventures des musiciens, surtout aux États-Unis, ils changent de vie, changent de ville. Donc c'est une approche, je dirais, plus réaliste de la musique, très moins fantasmée. Voilà, c'est ça que j'apprécie.
Il y a des passeurs en France, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le seul, dans votre genre, c'est J.D. Beauvallet qui était aux Inrocutibles, a sorti un très très beau livre.
Les années New Wave, oui. Et puis son livre Passeur. Est passionnant.
Il se raconte là, c'est oui. Un livre de mémoire, c'est pas ce que vous faites vous, hein. C'est pas l'exercice que vous faites dans Very Good Trip.
Ah non, dans mon livre vous voulez dire
oui,
aussi un peu quand même, mais c'est pas...
Par le prisme de chansons.
Oui, c'est différent. Dire que je pense que moi j'essaye. Si vous voulez, on a. Bon, c'est peut-être un peu une ambition un peu disproportionnée. Enfin, je sais pas comment dire. Mais avec Maud Berthommier, on pensait beaucoup à Annie Ernaux, qui raconte dans les années qui mêle des souvenirs intimes de sa famille, ses études, ses fiancés, etc. Et des façons de participer à des expériences collectives, qu'elles soient esthétiques, politiques, sociales. Etc. Et donc, c'est un type d'autobiographie qui prend, je dirais, en écharpe, si j'ose dire, la vie communautaire, la vie collective.
Il y a une chose dans votre carrière que vous n'avez pas abordée, donc producteur de radio, journaliste, auteur, scénariste. Il y a quand même eu 2 films dans les années 90. Est-ce que vous avez déjà écrit des chansons pour des artistes français?
Non, parce que personne ne me l'a demandé. Donc, en fait, c'est marrant parce que je me suis amusé à faire de la musique. Moi, qui ne suis pas du tout musicien. En fait,
un petit peu de guitare, quoi.
Oui, vaguement. Enfin. Et en revanche, j'ai un fils musicien. Il fait de la musique électronique.
Sous quel nom?
Antoine Assayas.
D'accord.
Il a publié un EP, il s'apprête il fait des concerts, tout ça, il commence à avoir un petit nom dans le milieu. Et en fait, c'est moi qui lui ai donné le goût de la musique, évidemment, en particulier de l'électro, et je me suis mis en tête de faire un groupe totalement sauvage, punk, mais dans un sens presque dadaïste, de faire un groupe avec des gens qui ne savent pas jouer, quoi.
Il y en a beaucoup.
Oui, mais eux, ils s'améliorent avec le temps. En général, vous savez, The Cure, au début, ils ne savaient pas jouer non plus. De U2, c'est pareil. Le bassiste n'avait jamais pratiquement touché une basse de sa vie. C'était l'époque punk, vous avez connu ça. Et donc, j'ai fait des chansons. Je fais des chansons et en fait, mon fils, mon plus grand supporter, c'est mon fils qui me dit « Mais papa, tu devrais en faire plus, etc. » Je dis « Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai la radio, j'ai pas le temps. » Et puis la musique, c'est un artisanat très fastidieux. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut refaire tout le temps la même chose, recommencer. Et puis chanter, ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas simple, en fait, quand on n'a pas l'habitude. J'ai peut-être une voix de radio, mais pour chanter, je sais pas comment m'y prendre. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas du tout.
Ouais, il faut aller prendre des cours chez Armand Altaï, je ne vois que ça.
Oui, mais à chaque fois, j'entends des interviews de gens qui disent que vous avez pris des cours de chant. Ah, pas du tout, absolument. Ah, vous croyez que c'est pas vrai? Bon, d'accord.
Oh, ouais. À un moment...
Mais il y en a plein qui disent non, j'ai jamais appris, c'est venu comme ça.
Ouais.
Moi, quand ça vient comme ça, c'est pas terrible.
Je veux pas savoir. Donc, à vous écouter, on rentre en musique comme on rentre en religion, ça tombe bien, parce que le dernier choix que vous avez fait, c'est Al Green, qui est un pasteur chrétien évangélique.
Oui.
Pentecôtiste. Oui. La musique, c'est quelque chose de sacré, mais pas religieux.
Ah, c'est pas la même chose.
Non.
Le sacré appartient à une autre dimension de l'existence qu'on considère comme inatteignable, inaccessible. Alors, ça peut en effet être en intersection avec la religion, avec une croyance métaphysique, etc. Mais pour moi, le sacré, il est sur Terre. Il est de l'autre côté d'une barrière qu'on peut franchir, mais qu'on préfère ne pas franchir pour mieux rêver, si vous voulez.
Mishka Assayas, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que votre livre « Very Good Trip, une histoire intime de la musique » vient de sortir aux éditions GM avec France Inter, où vous officiez du lundi au jeudi.
Eh oui.
Bon, ça va, vous êtes prêts pour tout à l'heure?
Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas écrit les 4/5 de mon texte pour ce soir. Il faut que je cours chez moi, là.
Mettre un fait là, 38 minutes.
Oui, oui, c'est ça.
Al Green sur RFI. Ciao, merci Mishka.
Merci Laurence. Love and happiness.
something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness.
Love is, yeah, walking.